Bon matin tout le monde, ça va bien? Vraiment très heureux de pouvoir être avec vous ce matin, d'ouvrir la parole de Dieu. Quand même absolument incroyable quand on y pense de pouvoir ouvrir la parole de Dieu dans un pays ouvert à l'évangile, où on ne risque pas d'avoir la police à nos portes à notre sortie, ne pas risquer pour notre vie de croire en ce livre qui change nos vies, qui transforme nos vies. Je ne sais pas comment vous pensez de notre série de puissance dans Romains, tirée du livre de Romains. Quand même un passage incroyable qu'on découvre dimanche après dimanche. Je suis vraiment toujours émerveillé de commencer à travailler sur des textes dans Romains et de voir comment l'apôtre Paul expose tout ça avec brio, de manière inspirée par Dieu. Je trouve ça vraiment incroyable. On est arrivé dans une section, justement dans Romains, qui est, j'ai pas d'autre mot que incroyable encore, j'ai l'impression que ça fait 10 fois que je le dis, mais Romains 8, 9, 10, c'est vraiment des chapitres énorme dans ce passage où l'apôtre Paul ne fait pas seulement de la théologie. Il n'est pas juste en train d'exposer des faits très presque incompréhensibles dans nos têtes, mais il est en train de nous parler de ce qui vibre dans son cœur. Il nous ouvre son cœur, il nous laisse voir ce qui le fait vibrer, ce qui le fait tomber à genoux, ce qui le fait pleurer, ce qui lui fait intercéder envers Dieu pour le salut des autres. Il parle de salut, de ce mot qui, maintenant, dans notre contexte chrétien, on l'utilise facilement, mais ce mot salut, c'est de dire que des personnes qui sont perdues parce qu'ils se sont éloignés de Dieu, ils ne croient pas en Dieu, et le salut, c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui vient payer à notre place pour qu'on puisse être libérés et rentrer dans sa gloire, dans sa présence avec lui. Et il parle de ça de manière extraordinaire, pas comme juste une idée abstraite, mais il parle de ça comme quelque chose qui est urgent, qui est vital, qui change les vies, transforme les vies et qui doit être aussi partagé. Parce que Paul, il a compris quelque chose d'extraordinaire, il a compris que l'évangile, ce n'est pas juste une bonne option parmi tant d'autres. Non, il y a un seul moyen pour être sauvé. Et ça, c'est la bonne nouvelle qui est capable de sauver, ça change tout. Vous vous souvenez, au chapitre 8, justement, l'apôtre Paul nous amène comme au sommet de son épître avec cette notion « Et maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pour ceux qui ont placé leur foi en lui, on peut vivre de manière libre. On n'a plus de casier judiciaire, on est affranchi de tout ça. On peut vivre d'une manière libre. On peut sortir de notre prison. Et puis après, il continue dans la suite du chapitre 8. Il n'y a plus de séparation. Notre trajectoire, elle est assurée quand on est en Jésus-Christ. Même les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Puis il arrive à la fin avec cette notion de « rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ». Vous vous souvenez de ça? Rien, absolument rien, quand on est en Jésus, rien ne peut nous séparer de son amour. Et donc, Paul, il arrive après avoir exposé ça au chapitre 8, il se dit « mais il faut que tout le monde connaisse ça !» Puis il regarde déjà à son propre peuple, puis il est attristé. Son cœur saigne. Il va dire au début du chapitre 9, « Je préférerais être moi-même anathème, c'est-à-dire moi-même être séparé de Dieu à leur place, pour qu'eux puissent goûter cette assurance, cette beauté, cet amour qu'il y a en Jésus, en Dieu. » Il préférerait être lui-même séparé, pour que tous les autres connaissent ça. Mais il reconnaît aussi là-dedans toute la souveraineté de Dieu. Que Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et puis il reconnaît aussi que le salut est ouvert aux nations. Puis là on arrive, chapitre 10, passage qu'on va voir ce matin, où il va nous parler du salut. Il va nous parler comment, c'est quoi le moyen pour être sauvé. Et surtout, une fois qu'on est sauvé, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et donc, on va découvrir ça ce matin. Et Josiane va nous lire le texte biblique. Mais juste avant ça, je vais vous demander qu'on passe un temps dans la prière pour que Dieu puisse nous rendre attentifs à sa parole. Ça vous va? Seigneur notre Dieu, merci pour le fait que ce matin, on puisse venir écouter ta parole librement. Seigneur, on prie de nous parler, Seigneur, à chacun ce matin. Que ce soit ta parole qui parle, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit ta parole qui produit un effet dans nos cœurs. Seigneur, que ce texte puisse nous motiver à avoir nos yeux fixés sur toi, à implorer ta grâce, ton salut, mais que ce texte nous pousse aussi à aller le partager, à aller dire à quel point tu es un Dieu extraordinaire et que tu as fait quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Alors Seigneur, parle-nous ce matin, en ton nom. Amen.
Bon matin. Le passage de ce matin sera lu dans Romains 10, versets 9 à 17, dans la Nouvelle Édition de Genève. Romains 10, versets 9 à 17. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Merci beaucoup. Donc ce matin, si je devais résumer le texte biblique et la prédication qu'on va voir ce matin, voici comment je le ferai. Dieu offre le salut à tous par la foi. Et nous sommes envoyés avec urgence pour l'annoncer à ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Dieu offre à tous le salut par la foi. Nous sommes envoyés avec urgence pour l'annoncer à ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Et donc, sur la base de ce résumé, et surtout sur la base de ce passage biblique, j'aimerais voir deux choses. Le salut par la foi, mais aussi de voir l'urgence de la mission. Donc, si vous voulez bien, on va voir un salut par la foi. Et Paul, dans le chapitre 10, commence un peu de la même manière que dans le chapitre 9. Il expose son cœur. Verset 1. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Ce qu'il dit ici, c'est que ce n'est pas juste une manière ponctuelle qu'il a fait juste une fois dans le verset chapitre 9. Non, il le fait encore et encore. C'est le fil conducteur de son cœur. C'est ce qui habite son cœur, toutes ses pensées. L'apôtre Paul veut de tout son cœur que les gens soient sauvés. Il ne parle pas ici comme un simple théologien. Il parle comme un homme qui est profondément impliqué dans le plan de Dieu pour sauver les hommes. Ce qu'il va dire, c'est que le salut n'est pas juste froid ou abstrait, il est porté par un fardeau réel. Fardeau qui porte, c'est le fardeau des âmes des autres. Et c'est ce qui rend encore plus fort, c'est l'objet de sa prière. Il prie pour son peuple. Il prie pour un peuple qui, en grande partie, maintenant le rejette. Un peuple qui le considère comme étant dans l'erreur. un peuple qui voit en Jésus un faux Messie. Et donc, s'ils voient en Jésus un faux Messie, le Jésus que Paul prêche, alors Paul est quelqu'un qui s'est égaré de la vérité. Quelqu'un qui croit en quelque chose qu'eux-mêmes ne croient plus. Et pourtant, chez Paul, il n'y a aucune trace d'amertume. Aucune distance, aucune dureté. Juste, il prie. Et on entend ici le fardeau de son cœur pour ces gens-là. Il désire leur salut. Il aspire à ce qu'ils connaissent cette grâce qu'il a lui-même reçue de Dieu. Et il est en train de porter leurs conditions devant Dieu. La proclamation du salut chez l'apôtre Paul ne vient jamais sans compassion. La vérité de l'Évangile n'est jamais détachée d'un amour sincère pour ceux qui ne le connaissent pas. Paul ici est à l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il était sur terre, à de nombreuses reprises, il fut ému de compassion pour la foule. Et après ça, il leur prêche la bonne nouvelle du royaume. Et je trouve ça vraiment incroyable de voir à quel point l'apôtre Paul prie pour ses ennemis, pour le salut de ses ennemis. Et ça me fait penser, la semaine dernière, les missionnaires qu'on a reçus, ils nous ont partagé que dans le contexte où ils vont aller, il y a certains expatriés chrétiens qui avaient des entreprises là-bas, et puis à cause de la crise du coronavirus, ils ont dû sortir du pays, comme aussi les expatriés non chrétiens, ceux qui faisaient du business dans ce pays-là. Et puis, les expatriés non chrétiens ont décidé d'arrêter de payer leurs employés parce qu'ils n'avaient plus de revenus à cause de la crise. Mais les expatriés chrétiens, eux, continuaient à payer pour les employés qui restaient sur place. Et ça a été une gage incroyable, un témoignage énorme, parce que les employés là-bas se disaient « Ok, mais les chrétiens, c'est les ennemis de l'État, ce sont nos ennemis, nos purs ennemis !» Et pourtant, ils continuent à nous bénir. C'est parce que les chrétiens portaient ce fardeau sur leur cœur, d'être un témoignage, que ces gens-là puissent comprendre le message du salut. C'est exactement ce que l'apôtre Paul est en train de faire ici. Les chrétiens ne sont pas des ennemis comme les autres. Quel genre d'ennemi prie pour le bien de l'autre partie? Quel genre d'ennemi a le cœur brisé, qui souhaite le meilleur pour l'autre, quitte même à donner sa place, comme Paul le dit au chapitre 9, verset 1. Mais Paul, il a certes le cœur brisé sur leurs conditions, mais il est aussi très lucide. Et il veut mettre le doigt, justement, sur ce qui cloche, sur ce qui ne va pas. Et ça, c'est les versets 2 à 4. Il dit « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Paul reconnaît leur zèle. Il ne méprise pas du tout leur engagement. Mais il voit qu'il y a un problème. Il voit que, avec ce zèle, ils essayent de s'auto-justifier devant Dieu. Et ça ne marche pas. Ça, c'est un leurre. Penser qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, devenir juste par soi-même n'est pas vrai. On ne peut pas par nos propres efforts. On ne peut pas par notre propre discipline, par notre propre sérieux spirituel, arriver à trouver un pardon pour nos péchés. On ne peut pas arriver à justifier notre péché. Et Paul pousse le raisonnement encore plus loin dans les versets suivants. Il rappelle avec Moïse, avec ce que Moïse avait donné comme la loi de Moïse, que la logique de la loi est simple. Si quelqu'un accomplit parfaitement la loi, alors il n'a aucun problème devant Dieu. Et il peut rentrer dans sa présence. Il est déclaré juste, il est juste. Donc sur ce principe-là, ça se tient. Mais la réalité, c'est qu'aucun homme n'arrive à accomplir la loi d'une manière parfaite. Constamment, on faute, constamment, on pêche, constamment, on fait une erreur vis-à-vis de la loi. Et si même je me disais, ok, moi, à partir d'aujourd'hui, c'est bon. La loi, je la respecte à la lettre. Et admettons que j'y arriverai. Mais il me reste encore tous mes péchés passés. Toutes les fois où je n'ai pas justement accompli cette loi, respecté cette loi. Ça, on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Dieu va nous demander de rendre des comptes vis-à-vis de ça. La loi révèle notre péché. Elle agit comme un miroir devant nous. Elle ne peut pas nous justifier, mais elle peut nous montrer à quel point on a besoin d'être sauvé, à quel point on a besoin d'un sauveur, à quel point on a besoin de quelqu'un qui lui-même a accompli la loi parfaitement et qui va prendre notre place. Paul dit que ce chemin-là de l'auto-justification ne peut pas mener à la justice. Il nous empêche même à recevoir celle que Dieu veut nous donner. Et je sais que, historiquement, ici, ce même mécanisme s'est vu au Québec, avec le catholicisme, avec beaucoup de sincérité, avec une grande importance aux œuvres, à la pratique, à la performance religieuse, à tout le sérieux qui peut être mis là-dedans. Cela n'a pas produit une justification. Au contraire, ça n'a pas apporté la liberté. Au contraire, ça a apporté un poids lourd, quelque chose que le peuple québécois a voulu se débarrasser totalement. Un poids sur les consciences, une pression sur les vies. Parfois, même des dérives où, en voulant bien faire, on vient à imposer un système aux autres qui les écrase plus qu'il ne les libère. Et c'est exactement ce qui se passait déjà au temps de l'apôtre Paul. En tout cas, c'est exactement ce qu'il est en train de décrire ici. Il voit un zèle, mais un zèle qui devient lourd. Un désir de justice qui se transforme en auto-justification et qui amène à la perte. Ce mécanisme dans nos vies n'a pas disparu, malheureusement. Il peut être très religieux, mais il peut être aussi des fois très, très discret, très sournois. Chercher à prouver sa propre valeur, se rassurer par ses propres efforts, se comparer pour se dire « Ah, je ne suis pas si pire que ça !» Je pense que je suis à la hauteur, ou en tout cas, je suis au-dessus de la moyenne. Mais au fond, c'est toujours la même logique. On essaye de se trouver des choses pour établir une justice. Et Paul est radical avec ça. Il dit que ce n'est pas le chemin. Parce que la justice de Dieu ne se fabrique pas, elle se reçoit. Verset 4, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. » Autrement dit, en Jésus, cette course pour se justifier soi-même, elle s'arrête. Une autre justice est donnée. Une justice qui repose plus sur ce que je fais, sur qui je suis, mais sur ce qu'il est et sur ce qu'il a accompli. Lui, le juste, mort pour nous, injuste. Afin que dans sa mort, dans sa résurrection, on puisse avoir la vie avec lui. Et vous vous rappelez, c'est ce qu'on a célébré la semaine dernière, à Pâques. Que sa mort et sa résurrection, quand on place notre confiance en ça, on peut trouver un plein pardon pour nos péchés, une justice rétablie parce que la condamnation est tombée sur Christ. Mais alors, si l'auto-justification est un leurre, si la loi ne peut pas nous sauver, alors c'est quoi le moyen? Comment on parvient au salut? Comment on fait concrètement pour être sauvé, pour être pardonné, pour pouvoir être déclaré juste devant Dieu? Et Paul répond avec une simplicité désarmante qui pour beaucoup se disent « Non, ce n'est pas possible que ce soit aussi simple. Ce n'est pas possible que pour tout ce que j'ai fait, il suffit juste de croire. Ce n'est pas possible. » Il dit, versets 9 et 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Point. Car c'est en croyant du corps qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Paul ne complique pas du tout les choses. Il ne rend pas le salut comme inaccessible. Il le met à la portée de main de tous. Il ne dit pas, si tu comprends toute la Bible, si tu es capable de complètement la réciter par cœur, si tu maîtrises toute la théologie, alors tu seras sauvé. Non, non, non. Il dit, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, alors tu seras sauvé. Autrement dit, si tu reconnais que Jésus est Seigneur, alors tu seras sauvé. Ce mot est lourd de sens, Seigneur. Dans le contexte gréco-romain, Kyrios, donc Seigneur, c'était le titre de l'empereur. Dire Jésus est Kyrios, Jésus est Seigneur, en public, c'était potentiellement une déclaration mortelle. Ce n'était pas juste une opinion religieuse privée. C'était un positionnement total, un affront à l'Empire. Imagine, vous voyez ce que je veux dire, c'est que le mot « Seigneur » a une lourde signification ici. On ne peut pas juste le dire comme ça, parce qu'il y a, entre guillemets, des conséquences à ça. Imagine que tu te trouves un nouveau travail, et puis que tu reçois ton contrat de travail, et puis il y a une clause qui est écrite, « Cet employeur a priorité absolue sur ton temps, sur tes décisions et sur tes projets. » Est-ce que tu signes ? C'est exactement ce que ça veut dire. Jésus-Christ est Seigneur. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, alors c'est lui qui détient maintenant l'autorité absolue sur ton temps, sur tes décisions, sur tes projets, sur ta façon de penser. En gros, dire que Jésus-Christ est Seigneur, c'est reconnaître que Jésus est celui qui règne sur absolument tout. C'est lui qui a toute l'autorité. C'est lui qui dirige. Et en fait, c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est aussi reconnaître, en disant Jésus-Christ est Seigneur, c'est aussi reconnaître que j'ai essayé d'être le propre Seigneur de ma vie et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. J'ai essayé. J'ai fait plein de choses. Mais en fait, j'arrive à un échec. Alors je crie à Jésus et je dis « Seigneur, Jésus, sois le Seigneur de ma vie. Prends les rênes de ma vie parce que tu vas la mener bien mieux que moi. » Le salut, ce n'est pas juste éviter l'enfer, c'est entrer sous la seigneurie de Jésus-Christ, sous cette seigneurie bienveillante de notre Sauveur Jésus-Christ. La conversion, ce n'est pas juste dire une prière de par notre bouche, et puis c'est tout. Ce n'est pas juste des mots. Parce que c'est vrai qu'on peut connaître la Bible, on peut aller à l'église toute notre vie sans jamais avoir confié notre cœur à Jésus. Nombre de chrétiens qui se disent chrétiens et qui ne vivent pas cette réalité-là. Vous savez, Jésus, un passage qui fait mal, très mal, a dit, il y en a beaucoup qui vont m'appeler Seigneur, Seigneur. mais tous ne rentreront pas. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Le passage est clair. Si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur, t'es sauvé. Où est-ce que tu en es? Est-ce que Jésus a vraiment toute ton attention? A vraiment la première place dans ta vie? Je ne peux pas répondre à ta place. Mais je sais qu'on peut dire beaucoup de choses avec notre bouche sans que rien ne change. Mais quand Jésus devient notre Seigneur, non seulement dans notre bouche, mais aussi dans notre cœur, ça change tout. Vous avez noté que versets 9 et 10, il parle deux fois de la bouche et du cœur, mais qu'il les inverse. Verset 9, il commence par la bouche. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur. Et verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche. En fait, Paul inverse, justement pour dire que en fait, ça ne peut pas être délié. On ne peut pas juste dire de notre bouche quelque chose et dans notre cœur croire autre chose. Le salut, c'est ensemble. Ce que tu crois, tu le confesses. Un peu comme le mariage ou dans une relation amoureuse. Quand tu aimes une personne, tu veux dire oui à cette personne pour la vie et devant témoins. Tu veux le confesser, oui, j'aime cette personne et je l'aimerai pour le restant de ma vie. Mais tu ne veux pas juste lui dire à elle, tu le fais devant témoins, pour que les gens sachent. Tu portes une alliance. Encore une fois, question pour toi. Est-ce que tu le crois dans ton cœur et que ça s'entend dans ta bouche? Vraiment une question importante, parce que les deux sont inséparables. On ne peut pas avoir une foi purement intérieure et silencieuse. La vraie foi parle, elle sort, elle se risque. J'aime comment l'apôtre Paul termine toute cette section avec le verset 13. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Tu veux être sauvé aujourd'hui? Crie à lui. Crie à lui parce que invoquer, c'est exactement ce que ça veut dire. Ce n'est pas juste réciter une formule, c'est crier, c'est appeler à l'aide, c'est reconnaître qu'on ne peut pas se sauver soi-même et c'est dire « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta Seigneurie sur ma vie, j'ai besoin de ton salut pour me sauver, que je sois en relation avec toi et que ma vie ait du sens. » C'est ça, invoquer. Et c'est quiconque. C'est quiconque. Il n'y a aucun critère. Aucun critère pour être sauvé. Quiconque peut être sauvé. Il faut juste invoquer. Invoquer Jésus comme Seigneur. Vraiment, je préparais cette prédication et j'avais vraiment ça à cœur. Je veux prendre le temps nécessaire sur ça, parce que cette vérité-là est absolument capitale pour nos vies. Mes amis, on parle de vie ou de mort. C'est important de se poser cette bonne question. Est-ce que Jésus est mon Seigneur? Est-ce qu'il est mon Sauveur? Est-ce que je le crois au fond de mon cœur? Et est-ce que ça se voit? Est-ce que ça s'entend de ma bouche? Tout ça ne vient que parce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ce message-là, ce message de vie, peut transformer nos vies, littéralement, si on vient à invoquer sa grâce. De tout mon cœur, je souhaite que tout le monde dans cette salle puisse être en paix avec Dieu, avoir mis sa vie en règle devant lui, à avoir crié à Dieu, à avoir invoqué Dieu. Mais je sais aussi une chose, c'est que dans cette salle, je reconnais beaucoup de visages, beaucoup de personnes qui entendent à chaque dimanche ce même message. Mes amis, peu importe où t'en es avec Jésus, vous avez une chance incroyable. Chance incroyable parce que vous avez entendu ce que je viens de dire. Maintenant, ça vous appartient, entre vous et Dieu. Qu'est-ce que vous faites avec ce message? Est-ce que vous allez crier à lui ou pas? Mais vous avez une chance, parce que vous avez entendu ce message. Est-ce que l'apôtre Paul veut nous amener tout de suite après, au verset 14? C'est dans l'urgence de la mission. Il veut nous dire qu'en fait, il y a des personnes qui ne l'ont jamais entendu, ce message. Mais donc, comment ils vont invoquer Jésus pour être sauvés s'ils ne l'ont pas entendu? C'est là qu'en tant que chrétien, il y a une responsabilité, il y a une urgence dans notre mission qui est super importante. Et Paul, il va donner une cascade qui est logique, qui est presque impossible à ignorer. Il va dire, versets 14 et 15, « Comment donc invoquent-ils celui qui n'ont pas encore cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendant-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? » C'est simple, c'est clair, c'est urgent. Si quelqu'un ne croit pas, il ne va pas invoquer. Mais s'il n'entend pas, il ne pourra pas croire. Et si personne ne parle, personne n'entendra. On n'est pas du tout dans une idée très abstraite, très intellectuelle du salut ici. Non, il y a quelque chose d'une chaîne de responsabilité qui est claire, qui est évidente. Il faut que quelqu'un parle. Il faut que quelqu'un envoie. Et en fait, ce que je trouve fou avec cette chaîne, c'est qu'il y a toute une part qui ne nous revient pas. Et il y a une part qui nous revient. Qui va envoyer? Qui va parler? Les autres choses, c'est Dieu qui va faire son œuvre. Mais c'est comme s'il y avait une notion ici tellement importante. Qui va se lever pour envoyer des gens qui vont prêcher l'Évangile? Qui va se lever pour eux-mêmes partir et dire à toutes ces personnes qui n'ont jamais entendu? Il faut que quelqu'un parle, il faut que quelqu'un soit envoyé. Sinon, comment ils feront pour connaître le message de l'Évangile? Imagine une situation de danger. Quelqu'un est en train de se noyer, puis toi, tu sais nager. Tu es sur ton bateau, tu es bien, tu es au calme. Puis tu regardes ça, la situation de loin, et tu te dis, bon, je vais attendre encore un peu, je vais voir si ça va, s'il est correct. Puis, je pense qu'il est capable. Je pense qu'il est capable de se sauver. Il va s'en sortir. Non, quand on voit une urgence comme ça, c'est on crie au secours. Si on n'est pas capable de nager, on envoie quelqu'un qui va le sauver. On appelle des gens, il y a une situation d'alerte générale où toute notre attention elle se focalise sur ça. Ce serait tellement malsain de ne pas réagir. Ce serait de la non-assistance à personne en danger. Il y a des hommes et des femmes qui, tous les jours, meurent sans avoir entendu une seule fois cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est là que ça nous rejoint, parce que dans cette cascade, notre place apparaît clairement. Nous ne pouvons pas croire à la place des gens, nous ne pouvons pas invoquer à leur place. L'apôtre Paul lui-même aimerait le faire, mais il ne peut pas. Les deux choses que nous pouvons faire, c'est parler et envoyer. Ouvrir notre bouche et soutenir ceux qui l'ouvrent. La vraie question n'est pas, est-ce que ce mandat missionnaire, est-ce que cette mission que Jésus donne, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je suis capable? Non, la vraie question c'est, comment j'y participe? Elle est où ma place? Parler ou envoyer? Dans les deux cas, rester passif n'est pas une option pour l'apôtre Paul. Parce que pour Paul, ce n'est pas secondaire, c'est urgent. C'est la mission principale de l'Église, d'envoyer et de prêcher l'Évangile. J'aime tellement ce verset 15, « Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Cette semaine, alors que je préparais cette prédication, j'écoutais une autre prédication, puis je me disais, waouh, ce gars transpire l'Évangile. Même à travers une vidéo, je vois la passion de ce gars pour l'Évangile. Dans son visage, il y a, je ne sais pas, quelque chose, dans ses rides peut-être, quelque chose qui est beau. De se dire, waouh, ce gars donne sa vie pour Dieu. Il y a toujours une beauté, quelque part, quand on prêche l'Évangile. Même pour des personnes qui bégayent presque ou qui ne sont pas les meilleurs élocuteurs, il y a quelque chose qui transpire de la passion. Parce que ce qu'on fait, c'est spirituel. Il y a une œuvre spirituelle qui se passe derrière. Ceux qui annoncent la paix, ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, ce n'est pas des super-héros, ce n'est pas des experts, mais des hommes et des femmes ordinaires qui sont transformés eux-mêmes par le message de l'Évangile et qui envoient. La réalité, c'est que quand on agit en tant que disciple de Christ, il y a une beauté qui se dégage parce que le monde qui nous entoure, eux ne lisent peut-être pas leur Bible, ne voient peut-être pas Dieu, mais ils nous voient nous. Et nous, dans notre manière d'agir, ils voient la beauté de Christ dans nos vies. Je trouve ça vraiment merveilleux. Et quand on voit ça, là, on peut se dire, mais ok, c'est peut-être pour les autres. Parce que moi, je ne suis pas capable, je ne sais pas quoi dire, je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas comme un gars comme Billy Graham qui prêchait devant des foules et les gens se convertissaient en masse. Alors on bloque souvent là, on pense qu'il faut être plus formé, plus à l'aise, plus convaincant, comme si tout reposait sur nous. Mais en réalité, c'est exactement là où on se trompe. Parce que le salut ne dépend pas sur notre capacité à bien parler, ne dépend pas sur notre intelligence, ne dépend pas de notre performance. Mais parce que quelqu'un avant nous a agi. Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, Dieu veut sauver des hommes et des femmes. Avec l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur, il convainc les gens de pécher et donc amène à la repentance. Notre rôle, au fond, est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Juste dire ce que Jésus a fait, parler de la croix, annoncer qu'il est vivant. Et regardez ce que Paul va dire au verset 17. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » En fait, mes amis, on agit plus comme un facteur que comme un théologien. Juste, on met un timbre sur ce livre et on l'envoie. Le facteur n'écrit pas la lettre, il ne la modifie pas, il ne l'améliore pas, il ne paye même pas lui-même le timbre pour la lettre, mais il la transporte seulement. Nous ne sommes pas les auteurs du message, nous sommes juste les porteurs. Et Dieu se sert de porteurs ordinaires, comme toi et comme moi, pour accomplir une œuvre extraordinaire dans la vie des gens qui entendront ce message. Et ça change tout. Paul ne parle pas seulement d'Israël ici, dans ce chapitre. Il corrige une vision. Certains pensaient que le salut appartenait à Israël et à Israël seul, que Dieu agissait pour eux et pour eux seuls. Mais Paul montre avec Moïse et Ésaïe que ça n'a jamais été le plan, que Dieu avait déjà annoncé qu'il irait vers d'autres peuples, des peuples considérés comme loin, comme sans intelligence, comme des étrangers aux promesses de Dieu. Romains 10, verset 20 dit « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » C'est comme une promesse. Dieu se révèle à ceux qui ne le recherchent même pas. Dieu va vers les nations à travers nous. à travers le mandat missionnaire que Jésus nous a confié. Et même Paul va dire que ça devrait provoquer la jalousie d'Israël. De voir Dieu agir ailleurs devrait provoquer la jalousie de son peuple ici, devrait comme réveiller son peuple, de se dire « Mais moi aussi, je devrais croire à ça !» Et j'avoue, je pouvais pas m'arrêter de penser à ce qu'on vit ici au Québec. Un peu ce truc de « Oh, le Québec a tant besoin de l'Évangile !» On veut que tous les Québécois croient. Et c'est bien, c'est ce que la Bible dit. Mais mes amis, Dieu est en train de faire des œuvres incroyables à travers le monde. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a des régions dans cet archipel d'îles où quand un missionnaire vient et prêche l'Évangile, c'est le village au complet qui se convertit. Et vous savez ce que le chef du village dit ? Ah, il faut absolument que vous alliez dans tel autre village pour annoncer l'Évangile. Eux aussi, ils ont besoin. Et eux aussi, ils attendent que ça. Et ce missionnaire en question, que j'avais entendu son témoignage, disait « Mais moi, je ne suis pas capable. Je suis tout seul avec ma famille. Je ne suis pas capable de toucher toute cette région-là. Et je suis le seul. » Mes amis, Dieu est en train de faire des œuvres extraordinaires dans le monde. On a juste à nous y engager, à dire « Ok, moi, je veux être envoyé. » Il y a juste à faire que notre Église dise « Ok, nous, on veut envoyer telle personne là-bas. » Parce que Dieu veut sauver des gens à travers le monde. Et ça devrait nous toucher, nous, au Québec. Dire « Ok, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires là-bas. On doit s'y impliquer. » Parce que vous savez quoi ? Quand on commence à s'impliquer à l'extérieur de chez nous, Dieu bénit à l'intérieur. C'est mon témoignage personnel. Dans l'église où j'ai grandi, une église stable, mature, qui avait plusieurs années d'histoire, a connu un vrai réveil à partir du moment où ils ont commencé à envoyer un groupe de jeunes au Venezuela. Le groupe de jeunes a vécu quelque chose d'extraordinaire là-bas. Ils sont revenus avec un feu tellement débordant, ils se sont dit « Ok, let's go, maintenant on part en Haïti !» Et en fait, ils se sont dit « Bon, Haïti c'est bien, mais je pense qu'on peut faire plus encore. » Et donc, on va aussi partir en même temps en Roumanie. Et puis les voyages missionnaires n'ont cessé que de se multiplier comme ça. Et vous savez quoi ? L'Église, juste en se concentrant sur l'extérieur, a fait x3 à l'intérieur, par de véritables conversions, par des efforts d'évangélisation multipliés, un rayonnement dans leur ville incroyable. Aujourd'hui, ils sont dans un projet bâtiment pour agrandir et doubler la superficie. Vous vous rendez compte ? C'est ce que je crois que l'apôtre Paul dit ici. Ça devrait susciter presque une jalousie de voir que Dieu agit ailleurs. Que nous-mêmes, on doit s'y investir à 200%. Dieu va s'occuper d'ici. Dieu va s'occuper des Québécois. Dieu aime les Québécois et Dieu veut sauver les Québécois. On a besoin d'un zèle nouveau, d'une foi renouvelée. Et ce que l'apôtre Paul nous appelle à faire ici, c'est à juste s'impliquer dans le plan de Dieu, à aller par toute la terre et dire aux gens qu'ils doivent invoquer le nom de Jésus-Christ. J'ai lu une histoire missionnaire récemment, d'un missionnaire qui a tout quitté. Il est parti avec son épouse et il est parti en Birmanie. Puis arrivé là-bas, il lui arrivait que des galères. Ils ont perdu 3 enfants, je crois, dans un temps record. Ils n'ont vu aucun fruit pendant des années et des années. Lui-même a été emprisonné pour sa foi, parce qu'il était chrétien, il pensait qu'il était un traître. Sa femme, qui était malade, venait lui donner à manger alors qu'il était en prison. Sa femme vient à décéder pendant qu'il est en prison. Puis par un miracle, ils ont besoin d'interprètes. Alors ils viennent le récupérer en prison, il sort de prison, il fait des grandes négociations dans tout le pays. Puis finalement, il est libéré après les conflits géopolitiques qui avaient eu lieu. Et puis après, il recontinue à former l'Église, malgré toutes les difficultés qu'il a traversées. Puis là, une foule de gens se convertissent. Incroyable! Puis au bout d'un moment, il voit l'épuisement de gérer tout ça. Il décide de rentrer aux États-Unis. Puis aux États-Unis, lui, il pensait qu'il allait passer inaperçu. Mais en fait, il y avait des milliers de personnes qui priaient pour lui, à tous les jours. Et donc, quand il est revenu, ça a été la méga fête. Il était invité dans toutes les églises pour pouvoir raconter tout ce que Dieu faisait là-bas. Vous savez ce qu'il a prêché ? Vous savez ce qu'il a raconté ? Il a raconté que Jésus-Christ était mort pour leurs péchés, qu'ils devaient croire. Et quand il était interrogé sur ça, il dit « Mais pourquoi tu prêches le message de l'Évangile ? Nous, on l'entend constamment. Nous, on veut des histoires, missionnaires, on veut des choses incroyables de ce que Dieu a fait. » Il a raconté, vous savez quoi ? La chose la plus incroyable, c'est que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Alors mes amis, je veux vraiment vous laisser avec ça, j'invite les musiciens à me rejoindre. La seule histoire qui compte à être partagée, c'est le message de la croix, le message que Jésus est mort pour tes péchés, pour mes péchés, qu'il est ressuscité, qu'aujourd'hui il peut vivre en toi, qu'il vit en moi, par son esprit. Il n'y a pas de plus belles histoires à raconter. Il n'y a pas de plus belles histoires à se souvenir. Et surtout, c'est la seule histoire qui compte à être partagé. Et ça à travers le monde. Parce que c'est la seule histoire qui sauve. Alors mes amis, levons-nous. Prions le Seigneur avec force. Envoyons des ouvriers. Nous-mêmes, posons-nous la question, est-ce que je dois être envoyé pour prêcher ce message? Pour que des gens puissent entendre, croire et invoquer le nom de Jésus pour le salut de leurs âmes. Je vais terminer en priant. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour le salut merveilleux que tu nous as donné. Seigneur, je te prie que dans cette salle, il n'y a aucune personne qui puisse ressortir ce matin sans avoir pris une position avec toi et pour toi. Sans avoir dit « Oui Seigneur, je crois que tu es mon sauveur, mais que tu es aussi mon Seigneur, que tu règnes sur ma vie, que tu détiens toute autorité. » Seigneur, je te prie de nous envoyer, que ce message de salut nous arme de zèle, nous pousse à l'action, nous pousse à dire avec des mots que tu es le Messie. Seigneur, je sais que dans cette salle, il y a plusieurs personnes qui se plaisent à prêcher l'Évangile, à partager l'Évangile, qui font des efforts d'évangélisation dans leurs amitiés, dans leur famille, dans la rue, pour certains. Seigneur, renouvelle la force, le zèle, le courage de toutes ces personnes. On a tellement besoin de personnes qui vont avec courage prêcher ce beau message de l'Évangile. Que nos vies transparaissent ce message de l'Évangile. Oui, Seigneur, qu'on puisse être connu comme une église, Seigneur, qui envoie et qui prêche l'Évangile. de manière urgente, parce qu'il est une question de vie ou de mort. Alors Seigneur, on veut te voir agir, on veut te voir sauver des vies, et on veut surtout te dire, utilise-nous, sommes tes serviteurs. En ton nom, on a prié. Amen.